Le journal Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une ce matin, une phrase: le seul responsable c'est moi. Elle est signée Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est sorti de son silence hier soir dans l'affaire Benalla. Cela suffira-t-il à clore la crise que traverse l'Élysée? On y revient en début de journal. L'actualité c'est aussi la canicule, on vient d'en parler. Trois quarts du pays au-dessus des 30 degrés aujourd'hui. Nous irons en Auvergne voir comment l'on prend soin de nos aïeux. Une vague de chaleur qui est en partie à l'origine de terribles incendies en Grèce, plus de 70 morts dans des stations balnéaires près d'Athènes. Nous serons en direct sur place avec notre envoyé spécial. À 8h20, Frédéric, c'est l'un des titres du jour, la visite du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Washington pour éviter une guerre commerciale. Pour en parler, vous recevez Pascal Lamy.
L'ancien commissaire européen au commerce, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, le monde va-t-il basculer dans les guerres douanières? Trump est-il une chance pour la construction européenne? La mondialisation libérale est-elle inéluctable? Le standard est ouvert. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Au programme également, les conditions de travail très difficiles des stewards et des hôtesses de Ryanair. Ils font grève pendant deux jours. Les 40 ans du premier bébé éprouvette et la sortie d'un polar poisseux, un film chinois très réussi qui sort aujourd'hui sur les écrans.
France Inter.
Depuis presque une semaine, sa parole était attendue, appelée à la barre, en quelque sorte. Emmanuel Macron a enfin brisé le silence dans l'affaire Benalla. C'était hier soir, à l'occasion d'un pot de fin de session parlementaire devant des dizaines de députés de la majorité à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Un chef de l'État très combatif, décidant d'assumer toute l'affaire et de ne couper aucune tête.
Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. Quelle République serions-nous si au premier coup de vent, celui qui la préside dirait « ça n'est pas moi, c'est ce collaborateur ». Sortons-le. Si au premier coup de vent, on disait « je n'étais pas au courant, c'est ce troisième bureau, je n'ai pas vu. » Sur ce sujet, je ne donnerai pas des têtes, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Lorsque nous en sommes encore à l'élucidation de la vérité, on ne sacrifie pas des fonctionnaires, des collaborateurs ou des ministres sur l'autel de l'émotion populaire, de la démocratie d'opinion instantanée.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Service politique de France Inter, d'abord un mot sur les conditions de cette intervention. Le chef de l'État a voulu jouer la surprise.
Et les députés ont, semble-t-il, été prévenus au dernier moment de sa venue. Il a réservé ses premiers mots aux siens, lui qui était resté mutique après plusieurs jours de désordre, blocage, tension. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hier soir Emmanuel Macron a déroulé. Il ne laissera à personne le soin de prendre sa défense. Remonté à bloc, le président donc, qu'il vienne me chercher, décoche-t-il, comme un avertissement à l'opposition et une volonté de ne sacrifier personne, on l'a entendu.
Cyril, peut-on dire maintenant que cette intervention va suffire à circonscrire l'incendie ou le feu peut-il repartir?
Et vous voulez savoir s'il reste des flamèches? On le saura dans les prochaines heures. Déjà, un aveu étonnant. Il endosse toute la responsabilité dans cette affaire, alors même que son directeur de cabinet l'après-midi devant la commission d'enquête de l'Assemblée avait dit assumer avoir pris seul la décision. Les députés de l'opposition l'ont donc déjà noté. En choisissant de parler en terrain conquis, devant des élus tout acquis à sa cause, le président a esquivé la contradiction alors qu'il reste énormément de zones d'ombre. Il se dit responsable. Responsable de quoi? Responsable surtout devant qui? Il le sait mieux que quiconque, la Constitution le protège. La tradition institutionnelle française a consacré l'irresponsabilité judiciaire du chef de l'État durant son mandat. Les constitutionnalistes sont divisés en revanche sur la possibilité pour un président d'être entendu par une commission d'enquête parlementaire. Responsable face aux Français, le rendez-vous est devant le peuple souverain, a glissé Emmanuel Macron en privé. Dans un an donc aux élections européennes, c'est très loin. Mais une chose est sûre, dans la 5ème République, il ne suffit pas que Jupiter lance quelques éclairs pour faire cesser l'orage.
Merci Cyril Graziani. Les réactions de l'opposition n'ont pas tardé, pas très fair play, a tweeté Marine Le Pen. Quand la Constitution, vous le disiez, explique-t-elle, le protège précisément de toute obligation de rendre des comptes. Pour le socialiste Olivier Faure, le vrai courage, c'est de prendre ses responsabilités avant que la presse ne révèle le scandale. Et pour l'entourage du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron doit toujours parler aux Français. Par ailleurs, la commission d'enquête parlementaire est loin d'avoir fini son travail. Elle entendra ce matin le général Éric Biofarina, commandant militaire de l'Élysée, ainsi que le colonel Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République.
France Inter, 8h05, fermez les volets, sortez les brumisateurs.
Oui, grosse chaleur annoncée sur toute la France aujourd'hui. C'est la région parisienne qui va souffrir le plus. Alerte à la canicule sur 9 départements de l'Île-de-France, de 34 à 37 degrés annoncés. En Auvergne aussi, le thermomètre va monter, 30 degrés à Clermont. Et comme chaque année, les plus fragiles sont les personnes âgées. Alors pour éviter les coups de chaud, des centres sociaux organisent des sorties à l'air frais pour nos anciens. Une virée de retraités suivie par Aurore Jarnoux de France Bleu Pays d'Auvergne.
Bonjour, Guillaume. Ça va ?
Michel monte dans le minibus. À côté d'elle, Colette, 90 ans. Et forcément, la conversation tourne autour de la chaleur.
Ouh là là, ce matin, j'ai tout fermé, mais pour aérer un peu. Et je vais avoir 30 degrés.
J'ai 25 chez moi. Mais attention, hein, j'ai un gros ventilateur.
Voilà. Moi, j'ai rien de tout ça. J'aime mieux le froid.
Moi, j'aime mieux le froid. Moi, on s'en défend du froid. Là, il n'y a pas moyen.
Arrivé au restaurant, les 6 retraités s'installent. Pour commencer, pas d'apéritif, mais un grand verre d'eau.
Tu bois quand j'ai soif? Ben, on me dit que je bois pas assez. Ah non, c'est pas drôle, mais enfin, on est seul. Hein.
Du coup, se balader entre copines, aller au restaurant, sortir de la moiteur de leur appartement, ça fait énormément de bien à Odette et Lucette.
Ah oui, sortir. L'autre semaine, on est parti à Volvic. Fait une bonne journée, on a Mandor, Vichy.
Et oui, la mairie de Clermont-Ferrand organise tous les jours des sorties. En ce moment, avec la chaleur, Guillaume, l'animateur, essaye de quitter le centre-ville.
À l'extérieur de Clermont, effectivement, au bord de nos lacs qui sont nombreux dans la région. On a des brumisateurs, se rafraîchir physiquement mais aussi un petit peu mentalement.
La mairie tient un registre des personnes les plus fragiles. Des bénévoles les appellent régulièrement et proposent des visites à domicile.
Aurore Jarnoux de France Bleu, pays d'Auvergne, qui dit canicule, dit aussi pollution. Alerte au pic d'ozone en Île-de-France et aux restrictions de circulation. Depuis ce matin, les voitures les plus polluantes sont interdites dans Paris et sa proche banlieue. Si vous voulez circuler, il faudra être équipé d'une vignette critère de couleur verte, violette, jaune ou orange. Direction la Grèce maintenant, la Grèce endeuillée par l'un des incendies les plus meurtriers de ces dernières décennies en Europe. À ce jour, 74 morts et 187 blessés, sans compter les nombreux disparus. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur place, Benjamin Mathieu, en direct de Matine, station balnéaire à 40 km d'Athènes, presque entièrement détruite par les flammes. 26 personnes sont mortes dans cette seule ville. Les pompiers, Benjamin, sont toujours mobilisés ce matin. Hein.
Oui, les pompiers qui fouillent toujours les maisons à la recherche de survivants. Ici, dans cette petite cité balnéaire paisible, se déroulait une véritable tragédie. 26 habitants ont été retrouvés morts, enlacés. 1000 habitations de la commune sont parties en fumée. On croise ici et là des carcasses de voitures incendiées un peu partout. Les habitants ont vécu un véritable enfer. Devant sa maison à moitié calcinée, Stavroula, une retraitée, est en colère. Revenue chercher sa carte bleue, elle s'est retrouvée entourée par les flammes.
Je suis revenue et j'ai vu toutes les maisons tout autour brûler, flambées comme des cierges, et je n'ai pas vu un seul véhicule de pompiers.
Les pompiers ont en fait combattu comme ils ont pu sur 3 fronts en même temps autour d'Athènes, faisant face à des vents de plus de 100 km/h qui embrasent les pins comme des torches, qui menacent Pandelidis et pompiers volontaires depuis 19 ans.
Je ne me rappelle pas d'un incendie d'une ampleur pareille. Il faut remonter à 2007 où on avait eu beaucoup de pertes humaines, mais de mon expérience, c'est la première fois que je fais face à une telle catastrophe.
Des chiffres invérifiables circulent ici. On parle de dizaines, voire de centaines de disparus, certains emportés par la mer. Le bilan des incendies dramatiques de 2007 et ses 77 morts devrait en tout cas être dépassé.
Benjamin Mathieu en direct. Merci de Mathy, près d'Athènes, avec les moyens techniques de Benjamin Chauvin. Un autre drame au Laos et la rupture de ce barrage hier qui a libéré 5 milliards de mètres cubes d'eau, l'équivalent de 2 millions de piscines olympiques. Au moins 6 villages ont été submergés, des centaines de disparus, 17 corps seulement ont été retrouvés ce matin.
Face à face musclé en perspective entre l'Union européenne et les États-Unis.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, doit en effet rencontrer Donald Trump aujourd'hui sur ses terres à Washington. Un déplacement très délicat. Juncker va tenter de dissuader Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'automobile. Le tête-à-tête s'annonce tendu. Quentin Dickinson.
Tout à l'heure, Donald Donald Trump recevra celui qu'il qualifiait il y a peu de tueur brutal, ce qui d'ailleurs constituait peut-être un compliment de sa part. Toujours est-il que la mission de Jean-Claude Juncker et de Cecilia Malmström consiste à tenter de faire revenir leur interlocuteur sur les surtaxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium européens et de lui faire comprendre que les contre-mesures européennes actuelles pourraient s'élargir à une foule d'autres exportations américaines si, par exemple, M. Trump mettait à exécution sa menace de surtaxer les voitures européennes destinées au marché américain. En clair, il s'agit de donner au président des États-Unis l'occasion d'éviter que les désagréments actuels limités ne se transforment en guerre commerciale à l'échelle de la planète avec Trump contre le monde entier. Madame Malmström, commissaire européenne au commerce international, se chargera de la démonstration technique. Jean-Claude Juncker, qui n'est porteur d'aucun plan particulier, incarnera le respect des accords mondiaux, le bon sens, l'unité des 28 pays de l'UE et, au besoin, la capacité à frapper du poing sur la table du bureau ovale. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
Et puis preuve que cette rencontre s'annonce complexe. Les États-Unis viennent d'acter une aide d'urgence de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs américains afin d'anticiper les représailles éventuelles des pays visés par les hausses douanières de la Maison-Blanche. Attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui avec Ryanair, dans les deux prochains jours, la compagnie low cost touchée par une grève des personnels de cabine en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie, 600 vols annulés, 100 000 passagers impactés. Hôtesses et stewards demandent à Ryanair de s'aligner sur le droit du travail de chaque pays. Ils se plaignent en effet de conditions de travail très précaires. Écoutez Yves Lambeau du CNE, le Centre National des Employés, le syndicat belge à l'origine du mouvement de grève européen chez Ryanair.
L'emploi chez Ryanair, c'est de l'esclavagisme. C'est venir à l'aéroport lorsqu'ils sont en stand-by, c'est-à-dire qu'ils sont présents à l'aéroport mais qu'ils ne travaillent pas et qu'ils sont susceptibles de remplacer quelqu'un qui serait malade. Mais s'ils ne travaillent pas cette journée-là, ils ont passé une journée à l'aéroport et ils ne seront pas payés, tout simplement. C'est d'être disponible à 40 minutes de l'aéroport chez eux pour être susceptible également d'être appelé. Et là aussi, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas rémunérés. Du personnel qui, quelquefois, ne gagne que 1000 euros alors qu'il travaille à temps plein dans un avion. Et donc, chez Ryanair, le personnel a un turnover très important parce qu'après quelques mois, certains préfèrent passer la main que de continuer à travailler dans ces conditions-là.
Yves Lambeau, interrogé par Laurent Kramer en économie toujours. On attend aujourd'hui les chiffres du chômage, de Pôle emploi qui ne s'annonce pas très bon. La reprise ralentit légèrement depuis le début de l'année, plus 0,2% au premier trimestre. Il y a 40 ans, le 25 juillet 1978 exactement, naissait Louise Brown, le premier bébé éprouvette du monde. L'équipe britannique devançait de 4 ans les Français avec Amandine, vous vous en souvenez. En France, 300 000 enfants ont été conçus par FIV, par la fécondation in vitro depuis 1980. Ce sera sans doute 400 000 enfants en 2019. Depuis cette époque, les techniques de FIV ont considérablement progressé. C'est sans doute l'un des domaines médicaux où les avancées ont été les plus fréquentes. Daniel Messager.
Il y a encore 40 ans, même 30 ans, quand une fécondation in vitro aboutissait à la naissance d'un enfant, l'événement était exceptionnel. Mais de façon linéaire, le nombre de bébés a augmenté, c'est 2,5% des naissances aujourd'hui. Le docteur Joël Belaï-Chalard, chef de service à l'hôpital de Saint-Cloud, spécialiste de la procréation médicalement assistée.
Actuellement, d'après les dernières données de l'agence de biomédecine, une femme sur cinq, 20% de celles qui font une tentative, accouchent 9 mois plus tard. Et encore, ça dépend de l'âge, si elles sont plus jeunes, c'est beaucoup plus, de la technique utilisée. Il y a eu des progrès fantastiques. La fécondation in vitro a révolutionné la vie des femmes et des hommes, des couples, parce que maintenant, vraiment, tous les gens osent aller jusqu'à la FIV. C'est pas réservé à certaines personnes.
Parmi les techniques qui ont fait faire un bond à la PMA, il y a la micro-injection qui permet d'inséminer chaque ovule avec un seul spermatozoïde, auparavant sélectionné pour sa mobilité. Grâce à cela, la quasi-totalité des enfants sont conçus avec les gamètes de leurs deux parents. Alors, quelle sera l'évolution? Sans nul doute, les indications non médicales. La PMA pour toutes les femmes ou encore l'autoconservation des ovocytes, préserver ses ovocytes quand on est jeune, pour les utiliser plus tard, des sujets qui justement sont au cœur de la révision de la loi de bioéthique.
Il y a 40 ans, naissait le premier bébé éprouvette. Vous le retrouverez, ce sujet, sur franceinter.fr. Ajoutons sur ce sujet, que La République En Marche s'est prononcée hier pour le remboursement intégral par la Sécurité sociale de la PMA, la procréation médicalement assistée. Un mot de sport avec le Tour de France. Un rappel avec la belle victoire hier du Français Julian Alaphilippe, la deuxième victoire du Français qui va tenter volonté maintenant de garder le maillot à pois rouge, de meilleurs grimpeurs jusqu'aux Champs-Élysées. Et aujourd'hui, au programme, épreuve explosive, 65 km seulement, mais avec un dénivelé de folie dans les Pyrénées, entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, départ en ligne et en côte avec un sprint en montée, ça promet dès les premières minutes. Et puis toujours en sport, cette info du Canard enchaîné ce matin, les Bleus auraient bien prévu de brandir la Coupe du Monde au crayon le 16 juillet dernier. La preuve, selon l'hebdomadaire, ce mail de l'Automobile Club de France, voisin de l'hôtel qui prévoyait de fermer ses portes plutôt sur ordre de la préfecture de Paris.
On termine avec un polar chinois, Sébastien.
Oui, sur les écrans cette semaine, un premier film récompensé lors du dernier festival de Beaune. Une pluie sans fin, un polar obsessionnel autour d'une série de meurtres qui devrait ravir les amateurs du genre. Inconnu jusqu'ici, le réalisateur Dong Yue s'annonce comme une figure à suivre avec un premier film très maîtrisé et très éclairant sur la Chine d'aujourd'hui. Corinne Pellissier.
Il aurait pu continuer pendant des années à jouer les chefs opérateurs pour les plus grands ou à tourner des films publicitaires. Mais à 40 ans passés, Dong Yue avait envie surtout de témoigner d'une Chine en mutation. Les fermetures d'usines, les grandes réformes sociales, la rétrocession d'Hong Kong, autant d'événements qui ont inspiré ce premier film à l'atmosphère humide et pesante. En toile de fond, des hommes et un système pas toujours en phase. Une histoire obsessionnelle, une enquête en 97 autour d'une série de meurtres menés sous une pluie battante par le chef de la sécurité d'une fonderie. Pendant des mois, en marge de la police, il va reconstituer les scènes, accumuler les indices, les notes, les croquis, jusqu'à en perdre la tête dans un décor où tous les événements se répètent comme dans un labyrinthe. Un film très sombre et très réussi qui a valu à son réalisateur un grand prix lors du dernier festival du film policier de Beaune.
Une pluie sans fin de Dong Yue sortie aujourd'hui. Dommage que ce ne soit qu'un film, Frédéric.
En même temps...
Une pluie sans fin, c'est vrai, on s'en passe après, on s'en passe très bien. Une pluie pour un jour, disons.
Voilà, un ou deux jours, pas plus. C'était Sébastien Logénie pour le journal.